En 1970, les échos de l'emblématique festival Woodstock, tenu un an plus tôt dans l'État de New York, résonnent encore au Québec. Les promoteurs tablent sur l'appétit pour des festivals musicaux et alimentent le rêve d'un Woodstock québécois. Mais le dimanche 2 août 1970, les derniers festivaliers encore sur le site du Festival Pop de Manceau quitteront les lieux déçus d'un événement qui n'a pas tenu ses promesses. Des quelques milliers de personnes qui, trois jours plus tôt, s'étaient amenées à la ferme Napoléon à Saint-Joseph de Blandford, assoiffées de musique, de paix et d'amour, il n'en reste que quelques centaines. C'est à peine un peu plus que les 200 policiers et un nombre comparable de journalistes qui ont assiégé les lieux tout le week-end. Craignant que la frustration se transforme en émeute, les policiers vident la place. En autobus ou en autostop, les jeunes festivaliers quittent dans la déception et l'amertume, laissant derrière eux une terre agricole jonchée de déchets et de débris. Autopsie d'un fascinant fiasco qui restera malgré tout inscrit dans la mémoire collective. En trame de fond de ce mauvais film, des promoteurs qui réussiront à flouer bien des gens en dissimulant leur passé trouble et en laissant croire qu'ils ont d'importants moyens financiers. Le personnage principal se nomme Richard Ziggy Wiseman, un ancien boxeur, gérant d'artistes de mauvaise réputation, frayant avec le monde interlope. Il en va de même pour les frères Filiatro, un quatuor, ayant un passé de combinard. Il y a aussi Roger Vandal, un chauffeur de taxi ayant des antécédents de vol et de recel, qui se présente comme le président de la firme Woods Productions. Après avoir essuyé des revers à Saint-Édouard-de-Masquinongé et à Bécancour, celle-ci réussira à convaincre le conseil municipal de Saint-Joseph-de-Blandford, parti rural de Manceau, d'embarquer dans le projet. L'historien Jacques Crochetière est l'auteur du livre « Le Woodstock Pop Festival de Manceau ».
Paul Dion, qui était le maire de la municipalité qu'on appelait la municipalité de campagne, il y avait le village puis la campagne, le maire de la campagne constatait qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient en manque de travail puis que ça manquait un peu de dynamisme à Manceau. Et il voyait une occasion, puis on lui avait peut-être même fait valoir qu'il y aurait possiblement une répétition l'année suivante du festival. Donc, éventuellement, que ça pourrait être un événement annuel à Manceau. Donc, pour lui, ça pourrait être intéressant pour les commerces et faire connaître le village.
Nous sommes à la mi-juin, la course contre la montre commence. Le festival est prévu pour la fin de semaine débutant le 31 juillet, avec l'objectif évident de devancer d'une semaine un autre festival déjà prévu à Sainte-Croix-de-Lobinière. Malgré la présence annoncée de Michael Lang, un organisateur de Woodstock, et l'annonce de la venue de grandes vedettes, la presse affiche une certaine ambivalence.
Ils ne croient pas trop, mais ils ne veulent pas manquer leur coup. Hein, ils sont ambivalents sur est-ce qu'on appuie, est-ce qu'on fait une promotion ou on le dénonce. Il y en a certains qui vont le dénoncer parce qu'ils s'aperçoivent que c'est cousu de fil blanc, cette affaire-là. Ça n'a pas de bon sens. C'est rocambolesque.
Les organisateurs font le pari qu'ils réussiront à vendre 25 000 billets à 12 $, mais au terme de la prévente, seulement quelques centaines auront trouvé preneur. Mais selon Jacques Crochetière, le festival cachait apparemment d'autres desseins.
Le 30 000 ou 32 000 $ de départ qu'ils ont eu pour partir tout ça, c'est la famille Cotroni qui a versé l'argent. Là. Parce que la famille Cotroni contrôlait déjà la drogue dans la région de Montréal à l'époque. Ils ont dit à Woodstock, là, ils ont probablement fait beaucoup d'argent avec la vente de la drogue. Fait qu'à Manceau, ça va être la même chose parce qu'à l'époque, toutes les drogues étaient interdites, marijuana, LSD et compagnie. Là.
Des entrepreneurs locaux se laissent embarquer en acceptant de réaliser à crédit des travaux pour aménager la Seine, alimenter le site en eau potable et en électricité et le clôturer. Mais cette clôture ne sera jamais achevée. Guy Saint-Pierre, maire de Manceau depuis plus de 30 ans, est au fait des pertes financières qu'ont subies plusieurs, en commençant par l'opérateur d'une concession alimentaire.
Il avait acheté une vanne de sandwich et d'aliments pour la fin de semaine, mais qui en a vendu à peu près le quart. Il est resté avec ça. Il n'a pas été payé par personne. La personne qui avait fourni le bois pour construire l'estrade où se produisaient les spectacles, lui non plus, il n'a pas été payé. Il y a un plombier qui a installé des toilettes et puis qui a fait de l'installation où les travailleurs couchaient avant pour la préparation du site, n'a pas été payé non plus. Il n'y a pas grand monde qui a fait de l'argent avec ça à Manceau.
À quelques kilomètres du site, en bordure de l'autoroute 20, où la famille Tremblay possède garage, motel et restaurant, des inconnus gravitant visiblement autour de l'organisation investissent les lieux quelques jours avant l'événement.
On ne savait pas ce que c'est qui s'en allait là. La plus grande surprise qu'on a eue, on nous a réveillés le matin, on a dit, si tu ne rouvres pas le restaurant, c'est nous autres qui le rouvrent. C'était la première surprise. Fait que là, t'as pas le choix, là, on va l'ouvrir.
Propriétaire du garage, Jacques Tremblay raconte que pendant une semaine, ils occuperont le motel de son père sans payer. Il est clair pour lui qu'il avait affaire à des membres de groupes criminels.
Ces deux automobiles, il était à 6 dans l'auto. On voyait que c'était des gars de la... autrement dit, de la mafia, là.
Il se rappelle aussi qu'un individu voulant s'installer sur son terrain pour vendre des billets s'est fait expulser par des motards. Quant à la clientèle des festivaliers, ce n'est pas avec elle que le restaurant a fait beaucoup d'argent.
Le restaurant s'était rempli, là, beaucoup trop. Puis là, ça s'est mis à partir sans payer. Là, on est obligé de barrer le restaurant puis engager quelqu'un qui en fasse rentrer 25, puis il en sort 25. Puis, autrement dit, il n'y avait aucun contrôle. C'était pas la clientèle la plus argentée qui arrivait là. C'était bien plus un trouble que la question d'argent, là.
Après l'arrivée des premiers festivaliers, plusieurs entreront sur le site sans payer. De plus, dès le premier soir, des agents de sécurité engagés par des organisateurs quitteront les lieux faute d'avoir été payés. Le festival s'ouvre et sans garantie financière, la plupart des groupes et artistes connus annoncés à grands coups de publicité ne se présentent pas. Des musiciens refusent de jouer. La guilde qui les représente, vu la réputation de mauvais payeur de Richard Wiseman, les prévient de n'accepter que de l'argent comptant avant leur prestation. Avec 500 $ en poche, Michael Lang tente tant bien que mal de sauver la soirée avant de disparaître pour le reste du festival. Le seul artiste connu qui se produira à Manceau sera Dr. John le samedi soir. S'ensuit une frustration qui va culminer jusqu'à ce que les organisateurs décident de rendre gratuit l'accès au site le samedi après-midi. La nouvelle est relayée par les médias et dès lors, le site se remplit de faux festivaliers, des curieux qui veulent voir les hippies et des voyeurs à la recherche de scènes de nudité. Guy Saint-Pierre avait 10 ans à l'époque du festival. Il a souvenir du va-et-vient des hélicoptères de la Sûreté du Québec. Et même si les dizaines de milliers de visiteurs attendus n'ont jamais été au rendez-vous, il se souvient qu'il y avait beaucoup de monde cette fin de semaine-là.
C'était 10 pieds entre les autos, là. Puis ça passait dans les deux sens. Ça roulait. L'autre chose que je me souviens, c'est qu'il n'y a pas eu de grabuge.
Si à Manceau, on éprouvera longtemps de la honte d'avoir été dupé, d'être associé à un tel flop et aux premières photos de nudité à la une d'Allopolis, Guy Saint-Pierre observe qu'un demi-siècle plus tard, ses concitoyens ont appris à en rire.
Il y a du monde qui sont encore gênés de ça, mais la plupart des gens, c'est comme ça fait partie des événements qu'il y a eu à Manceau. Oui, ça a été un échec, mais c'est plus aussi grave.
Flop ou pas, n'eût été du Woodstock Pop Festival, le village de Manceau n'aurait pas la notoriété qu'il a aujourd'hui.
Cette capsule historique est une production de Via 95. Entrevue, recherche, montage et narration, Jocelyn Ouellette. Collaboration à la production et à la diffusion, Elliot Tousignan, Justin Savard, Philippe Saint-Pierre et Louis-Martin McCardle. Merci à nos partenaires dans la production des capsules, la Société acadienne Port-Royal, Wabanaki, anciennement connue sous le nom du Grand Conseil de la Nation Wabanaki, le projet d'accueil et d'intégration solidaire, la Société d'histoire et de généalogie Lévrard-Becquet et Patrimoine Bécancour. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.